Alors, on est content que vous soyez tous là ce matin pour entendre la présentation que la chorale a préparée. Ils ont travaillé fort depuis quelques mois déjà. Il y a plusieurs nouvelles pièces que j'espère que vous allez apprécier, qui célèbrent Noël. Noël arrive à grands pas et nos vies sont envahies par les images et les sons du temps des fêtes. Dans la frénésie des préparatifs, il peut devenir facile de perdre de vue le sens véritable de cette fête. À Noël, dans un humble étable, Dieu donne au monde son Fils unique, Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Les événements se sont déroulés en cette merveilleuse nuit de la naissance de Jésus. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Bethléem n'avait jamais expérimenté une telle nuit. Ce petit village, paisible, situé à 8 km au sud de Jérusalem, était destiné à un grand avenir. Le prophète Michée avait déjà prédit qu'il sortirait de Bethléem celui qui dominerait sur Israël. Bethléem, ce qui signifie « maison du pain », a donné naissance au Messie, le véritable « pain de vie », seul capable de satisfaire les âmes affamées. En cette merveilleuse nuit, ce n'est pas seulement Bethléem qui est béni, mais c'est chacun de nous. « Je vous annonce, dit l'ange du Seigneur, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Quand Jésus, le Sauveur, est né, les premiers à l'apprendre, les bergers, se sont précipités pour venir l'adorer. Des mages de pays lointains se sont déplacés pour venir le voir. Joignons-nous donc à eux pour accueillir leur roi nouveau-né.
Thank you.
Voici de quelle façon la Bible décrit la visite des mages. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce soir, nous sommes bien loin de Bethléem et de cadeaux tels que l'or, l'encens et la myrrhe. Mais quand on vient auprès du Seigneur nouveau-né, que pouvons-nous offrir à ce grand roi? Y a-t-il quelque chose de plus précieux que notre cœur? Sans retenue et dans un abandon complet, offrons-lui le cadeau le plus précieux, notre vie tout entière. Enfants, venons à Bethléem pour voir Jésus. Bethléem peut nous sembler bien loin, mais d'une certaine façon, est-elle vraiment? Tout comme les bergers, nous avons entendu la bonne nouvelle. Et tout comme les anges, nous offrons au roi nouveau-né notre cadeau le plus précieux. Bethléem est l'endroit où s'est incarné le Sauveur, le seul espoir d'un monde en perdition. Jésus offre cet espoir parfait et infaillible à quiconque veut bien le recevoir. À bien y penser, nous sommes très près de Bethléem, car ici même, en ce moment, un Sauveur nous est né, c'est Jésus-Christ le Seigneur.
Thank you.
Un petit enfant, une étoile brillante éclaire. La porte entrouverte, une étable rudimentaire. Mais dans cet endroit abandonné, est né l'espoir du monde entier. Sa résurrection a vaincu la puissance de la mort et assure la vie éternelle à quiconque veut la recevoir. Veux-tu cette vie éternelle? Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Thank you. Ça, c'est bien? Excellent. Ça veut dire que j'ai pas le droit de trop bouger, c'est ça? Quelle belle occasion que nous avons ce matin de se rappeler de la venue de Jésus-Christ, non pas seulement comme faisant partie d'une tradition ou d'une culture, mais comme étant le point tournant de notre histoire. Quel privilège! Une des expressions qui revient le plus entourant ce temps de l'année, et c'est ce qu'on a entendu ce matin aussi, un sauveur nous est né. Quelle belle manière de transmettre la vérité de Noël au-delà de tout ce qu'on peut ajouter, inclure, aimer de ce temps des fêtes. Un sauveur nous est né, une belle expression. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une longue histoire d'amour dans le monde avec cette idée de sauveur. Et c'est pas propre à nécessairement aujourd'hui spécifiquement, mais même déjà depuis l'Antiquité, les hommes aiment les sauveurs. Si on retourne assez loin en arrière, on a des personnages comme Achille qui arrive comme étant le sauveur dans une situation parmi les peuples de l'Antiquité, un demi-dieu qui vient combler ou régler les insuffisances humaines. On veut trouver quelque chose de plus grand que nous pour résoudre les difficultés auxquelles on peut avoir à faire face. Malheureusement, Achille avait un talon, en tout cas au moins un des deux qui n'était pas trop bon. Et tout le long de l'histoire, finalement, l'homme aime l'idée d'un sauveur. Il y avait des mythes et des légendes qui faisaient craindre les armées, même dans le Moyen-Âge, d'hommes qui pouvaient résister à toutes les blessures possibles. Et on cultivait cette idée-là parce qu'on aime l'idée. On aime penser que quelqu'un est assez fort pour compléter nos faiblesses à nous. Et aujourd'hui, c'est pas différent. Aujourd'hui, si on regarde ce que les gens aiment, il suffit de se tourner vers Hollywood. Parce qu'Hollywood, c'est ça qu'il fait. Il donne ce que nous, on aime. Quand on a le goût de pleurer un peu, on regarde un film qui fait pleurer un peu. Quand on a le goût de rire, on regarde un film qui fait rire. Puis quand on a le goût de regarder des personnages comme ça, on regarde un film avec un sauveur. Un film avec un héros plus grand que nous, qui est capable de faire ce que nous, on n'est pas capable de faire. Puis il en pleut de cela ces temps-ci. Si vous allez au cinéma, là, c'est rempli de films pleins de sauveurs. Des super-héros, comme on les appelle aujourd'hui. Avec une cape, des collants. Je ne sais pas qui a pensé à une idée comme ça. Là, mais on aime ça. On aime les Superman et compagnie. Il y en a des nouveaux qui sortent. Là, dépendamment des générations, on a chacun nos repères de héros, de sauveurs. Puis on aime ça. On veut ça. On en a besoin jusqu'à un certain point parce qu'on sait que nous, on ne peut pas faire face à tout. Il faut que quelqu'un fasse face aux affaires qui sont plus grandes que nous. Et on veut croire que quelqu'un d'extraordinaire va venir changer la situation. Que quelqu'un d'extraordinaire va venir changer le monde. Parce que nous, on n'est pas capable. Il y a 2000 ans, un petit peu plus que ça, les hommes voulaient à ce moment-là aussi un héros. Ils voulaient un sauveur, comme tout le reste de notre histoire du monde. Les gens à cette époque-là n'étaient pas différents. Certains voyaient César comme étant ce héros. César, il était appelé sauveur du monde. C'était une des manières qu'on pouvait faire référence à lui. César, le sauveur du monde. Parce qu'à l'époque, l'Empire était pas mal dominant sur toutes les autres cultures, sur toutes les autres régions. Le monde connu était sous la domination de cet homme-là. Et on s'attendait à lui de grandes choses. Il avait accompli de grandes choses et on s'attendait de lui d'autres grandes choses. Et on voulait croire qu'il pourrait être ce sauveur. D'autres, à la même époque, désiraient un homme qui viendrait les délivrer de ce sauveur-là. Il y en a avec qui ça ne faisait pas l'affaire, César, et ils espéraient, ils attendaient quelqu'un qui les délivrerait de César, qui les délivrerait de ce sauveur. Manifestement, ce n'était pas le sauveur pour tout le monde. Ça nous amène à cette nuit. On a entendu dans les paroles des chansons tout à l'heure, des bergers qui veillaient sur les troupeaux, qui gardaient les animaux pendant la nuit, et peut-être même qui discutaient entre eux à savoir si un jour ils verraient un tel homme venir, un libérateur, quelqu'un qui viendrait changer la situation, changer le monde, faire des choses incroyables. Et alors qu'ils attendaient, dans la nuit, il y a un messager qui est venu vers eux pour leur parler justement d'une telle nouvelle. Tournons, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à tourner dans Luc. Et on va lire le message que les bergers ont reçu cette fameuse nuit. Luc 2. Dans vos Bibles, il y a le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc. À peu près 2/3 dans la Bible au complet. Luc 2. Et on va lire à partir du verset 8. Luc 2 et le verset 8. Et ça dit, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Notez au verset 11, « C'est aujourd'hui, dans la ville de David, qu'il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. » Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Maintenant, on est un petit peu éloigné, non seulement de l'époque, mais aussi de la culture, de ces bergers. Mais je suis prêt à mettre ma main au feu. C'est une expression, là, prenez-moi pas à la lettre, là, mais je suis prêt à m'engager que si on leur avait demandé, décrivez ce que vous pensez que le Sauveur va avoir de l'air. Il y a très peu de chances qu'ils auraient mentionné quelque chose comme ce qui est écrit ici. Ils n'avaient sûrement pas encore l'idée des capes rouges puis des collants bleus, là, mais si on leur avait demandé à quoi vous attendez, c'est quoi le Sauveur que vous voulez? En réalité, on sait que les Juifs attendaient plutôt un chef militaire, un libérateur politique, national, qui viendrait les soulager de l'oppression des Romains. Ça, c'est une caractéristique, certainement, qui se serait retrouvée dans la description des bergers. Et regardez ce que dit l'ange ici. « Voici comment vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant. » Attends un instant. Un enfant, surtout un enfant nouveau-né, ça évoque plutôt la fragilité puis la vulnérabilité que la puissance et la capacité. Un enfant nouveau-né, il a besoin de tout. Il a même besoin qu'on lui donne à manger. Il a même besoin qu'on l'amène dans un endroit pour le mettre au calme, pour qu'il puisse dormir, se reposer. Cette description que l'ange fait du Sauveur est remplie de contradictions, des semblants de contradictions, des ironies. Il semble que ce soit contradictoire. C'est tellement pas un héros habituel. C'est tellement pas un sauveur auquel on est habitué. Ce que l'histoire nous apprend, et ce que la parole de Dieu nous apprend, c'est que cet enfant vulnérable, habillé, emmailloté, malgré l'apparence de faiblesse et d'incapacité, en réalité est l'être le plus puissant que la terre ait jamais porté. C'est un petit bébé, probablement qui pleure la moitié du temps, comme font tous les bébés, et que le reste du temps, il faut s'occuper de lui. Mais en réalité, sous cette apparence de fragilité, il y a un sauveur puissant. Le récit nous apprend d'autres détails, par exemple que Joseph et Marie ont dû aller dans une section, c'était pas la section 3 étoiles du bâtiment où ils ont été. Il n'y avait pas de place pour eux. Ils se sont retrouvés dans l'équivalent d'une grange ou quelque chose comme ça. Le fin fond d'un tout petit village qui est probablement même pas sur la carte tellement c'est petit et insignifiant, mais malgré le contexte humble et pauvre et simple de la venue de ce sauveur, en réalité, ce bébé nouveau-né est celui qui a créé le monde. Il vient dans une situation tellement humble, tellement simple, tellement pauvre, mais il est le créateur du monde. C'est lui qui a créé cet endroit-là. C'est lui qui a créé toute chose. Et la première chose qui frappe les yeux, c'est un bébé d'une pauvre famille. Certainement, il n'y a pas grand-chose de bon qui va sortir de là. Mais c'est un grand sauveur. Quelque temps après, on lit dans le récit, ça a été mentionné aussi dans les chants de chorale tout à l'heure, des gens sont venus vers lui, des mages et d'autres, lui apporter des cadeaux précieux qui annonçaient en réalité que ce n'est pas juste un bébé, ce n'est pas juste un petit enfant. Comme aujourd'hui, on fait des showers pour donner des cadeaux aux parents quand un bébé vient, mais les cadeaux qui ont été donnés sont précieux, rares, riches, et les gens amènent des cadeaux à Jésus-Christ, à ce petit enfant. L'ironie, c'est qu'en réalité, premièrement, toute chose lui appartient. Il n'y a rien qu'on peut lui donner qui ne lui appartienne. C'est lui qui a créé toute chose. Puis deuxièmement, il est venu, non pas pour avoir des cadeaux, mais pour nous donner le plus grand cadeau qui soit. Quelle contradiction dans cette circonstance de la naissance de Jésus. Lui est venu nous donner quelque chose. Quelque chose d'extrêmement précieux. Une autre différence importante avec nos héros modernes ou les héros de l'histoire, c'est que d'habitude, dans un scénario typique, il y a un gros problème, tellement gros que les gens ne sont pas capables de faire face à ce problème, une menace, un mal quelconque, un ennemi quelconque, et personne n'est suffisant pour affronter ce mal-là. Et à ce moment-là, bang, le héros arrive, sauve la situation et tout est merveilleux. Et là, le méchant s'en va et tout le monde est de nouveau heureux. Mais dans la situation, le mal ne vient pas d'ailleurs. Ce que Jésus est venu affronter, le mal qu'il est venu vaincre, est ici, à l'intérieur. On est nous-mêmes celui qui doit être transformé. Nous sommes nous-mêmes le problème. Nous sommes éloignés de Dieu à cause de ce problème, à cause de notre péché. Et ce que Dieu est venu changer, c'est pas notre environnement, c'est nous-mêmes. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Alors qu'on peut chercher le réconfort ou l'espoir dans tout un tas de héros, de demi-dieux, d'êtres extraordinaires, ou même n'importe quelle autre chose dans notre vie qui peut avoir lieu pour nous, de jouer le rôle pour nous d'espoir, nous avons reçu avec ce petit bébé tout l'espoir dont nous avons besoin, tout le salut dont nous avons besoin, toute la délivrance dont nous pouvons avoir besoin est venue avec Jésus. Comme la chorale a chanté tout à l'heure, l'histoire de Jésus s'est pas arrêtée à la naissance, s'est pas arrêtée à la crèche, mais il a vécu sur terre jusqu'à la croix, jusqu'à donner sa vie pour nous. Et c'est là que Jésus se distingue de n'importe quel autre libérateur ou sauveur ou héros qu'on pourrait recherché, Jésus est le seul qui ait donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour... C'est ça qu'il est venu faire. Il est né comme un petit enfant. Il a grandi jusqu'à donner sa vie pour nous. C'est ça le cadeau de notre Sauveur. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Il a payé la dette qui nous éloignait, qui nous isolait de Dieu, à savoir le péché. Nous avons en Jésus-Christ le plus grand sauveur, le plus grand libérateur, non seulement que la terre ait jamais porté, mais personne d'autre viendra plus tard qui égalera ou surpassera l'œuvre de Jésus-Christ. Il a tout accompli, ce salut dont nous avions besoin. Nous avons un grand sauveur qui est venu, oui, sous une forme humble et surprenante à nos yeux, mais il est le seul sauveur. Et on veut prendre le temps de se rappeler, de garder à jour notre mémoire, que Noël, c'est ça que ça veut dire. Notre sauveur est né. Le sauveur est né parmi nous pour nous apporter le salut. Que ce soit un sujet de joie et d'espoir pour chacun d'entre nous. Si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, ne passez pas une autre journée avec des questions non répondues. Posez les questions, cherchez, connaissez-le, rencontrez-le. On a distribué plus tôt ce matin des livrets qui expliquent non seulement Noël, mais qui est Jésus. Prenez le temps de le connaître, parce que c'est le Sauveur, celui dont nous avons besoin. On va terminer avec un mot de prière, si vous voulez bien. Je vais vous inviter juste à vous courber, fermer les yeux et on va prier ensemble.